France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quel avenir pour les lignes SNCF les moins fréquentées et quelles conséquences en termes d'aménagement du territoire si certaines d'entre elles devaient fermer? On en parle ce soir sur France Inter, alors que l'exécutif semble décidé à aller très vite sur ce dossier. Pour preuve, les consultations qui se sont succédées cette semaine, 3 jours seulement après la présentation du rapport Spinetta qui inquiète les syndicats de la SNCF, les associations d'usagers et bon nombre d'élus locaux. Reste que l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire se poursuit dans l'Union européenne et que les trains nationaux, TGV, Intercités, TER seront bientôt eux aussi concernés par ce dispositif qui nécessite une loi où on a cru le comprendre ces derniers jours, des ordonnances, ce qui fait bondir les parlementaires. Alors ce soir, sans attendre la feuille de route du gouvernement qui sera présentée lundi par Édouard Philippe, on ouvre le débat sur France Inter, non pas sur le statut des cheminots, il y a eu la semaine dernière un téléphone sonne largement consacré à ce sujet, mais sur la notion de service public, ce qui intéresse tout particulièrement ceux qui n'habitent pas les agglomérations les mieux desservies, ceux qui dépendent de ces petites lignes, entre guillemets, qui pourraient disparaître. Pour en parler à nos côtés ce soir, le sénateur UDI Hervé Maurey, président de la commission Aménagement du territoire et développement durable, co-auteur d'une proposition de loi sur l'ouverture à la concurrence. Bonsoir monsieur Maurey.
Bonsoir.
Jean Lenoir, vice-président de la FNOT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Bonsoir monsieur Lenoir.
Bonsoir.
Vous représentez quoi, 160 associations, 80 000 adhérents, c'est beaucoup.
Ça.
Et en duplex de Châteauroux, Vannick Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France. Bonsoir monsieur Berberian.
Bonsoir.
Et merci à nos amis de France Bleu Berry pour cette liaison à distance. Quant à vous tous, eh bien vous connaissez le numéro pour nous appeler, c'est le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel au standard de France Inter, celui de Marc. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez des Hautes-Alpes, c'est bien ça ?
Je vous appelle de Grenoble.
De Grenoble, parce que je crois
membre
d'un collectif de l'étoile ferroviaire de Vennes, c'est ça ? Et Vennes, c'est pas très loin des Hautes-Alpes, si je ne m'abuse.
Exactement. Donc je suis effectivement membre de ce collectif qui regroupe des cheminots, des voyageurs, des élus de tout mandat, des habitants, des professionnels du territoire, et qui relie Grenoble à Gap, en passant par les départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes, et qui relie donc deux préfectures. Donc je donne quelques éléments pour déjà définir ce qui est peut-être entendu par une petite ligne. Sur cette ligne Grenoble-Gap, c'est environ 700 à 1000 personnes qui l'utilisent par jour. Et on a environ 40 trains qui passent par Vennes. Quelques enjeux par rapport à cette ligne. Tout d'abord, elle relie des territoires ruraux isolés de montagne à deux grandes villes. Donc on a cette connexion territoire ruraux-ville. D'autre part, on a des transports pour le domicile travail vers Grenoble et vers Gap également. Et enfin, cette ligne a un énorme potentiel touristique, notamment pendant ces périodes de vacances actuelles.
Marc, je me permets juste de vous couper, parce que pourquoi est-ce que vous vous inquiétez ? C'est parce que le rapport Spinetta, il a mis cette ligne entre Grenoble et Gap en jaune, je crois, et que ça concerne les trains, et les lignes sur lesquelles il y a moins de 20 trains par jour. C'est ça qui vous inquiète ?
Oui, alors en fait, cette ligne, il y a des travaux qui doivent être menés depuis plusieurs années. Il y a 2 ans, on évoquait 15 millions d'euros de travaux. L'État et la région s'étaient engagés pour rénover cette ligne. On parle aujourd'hui de 45 millions de coûts de rénovation. Et bien sûr, il y a le rapport Spinetta qui arrive en plus. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'État, la SNCF, se renvoie la balle pour le financement de cette ligne.
De cette ligne que vous voulez garder.
Qu'on veut garder, exactement. Et je dis, je donne simplement aussi un élément en plus, c'est qu'on a vu progressivement le service se dégrader, les trains remplacés par des cars. Je donne 2 chiffres. Grenoble-Vif, à la sortie de Grenoble, c'est 25 minutes par train, c'est 43 minutes par car. Et quand on passe du train au car, on perd un voyageur sur 3 qui se reporte sur la voiture individuelle.
Merci beaucoup Marc de nous avoir appelé pour nous parler de votre cas, de cet exemple qui est un exemple parmi tant d'autres. Hervé Maurey, peut-être que vous souhaitez réagir. Est-ce que vous voulez d'abord rassurer Marc ?
Bah écoutez, j'aimerais pouvoir le rassurer. Ce qui est certain, c'est que à ce stade, le rapport Spinetta n'est que un rapport, c'est-à-dire un ensemble de propositions formulées à l'adresse du gouvernement, et qu'il appartient au gouvernement de retenir tout ou partie de ces propositions. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien les reprendre toutes, ou comme ça arrive parfois, mettre ce rapport sur une étagère.
Ou au placard, comme disait la CGT.
Ou au placard, comme disait la CGT. Sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour de notre émission, je suis plutôt en phase avec M. Spinetta. Je ne le suis évidemment pas du tout sur cette question dite des petites lignes. Parce que quand M. Spinetta écrit que le ferroviaire, et je cite à peu près de mémoire ce qu'il a écrit, est pertinent pour relier les métropoles entre elles et pour assurer une desserte des zones urbaines et périurbaines, des transports de proximité dans les zones urbaines et périurbaines, c'est quand même extrêmement réducteur et totalement inadmissible et totalement inacceptable. Et donc, en tant que parlementaire, en tant que sénateur, je peux vous dire que l'ensemble des élus est vent debout par rapport à cette idée qui consisterait à supprimer des lignes comme celle dont vient de nous parler votre auditeur, la ligne entre Grenoble et Gap, qui, de toute évidence, a une utilité réelle. De même qu'il n'est, à mon avis, pas acceptable qu'une fois de plus, l'État refile la patate aux régions. Parce que les régions, comme beaucoup de collectivités, sont amenées à prendre de plus en plus de compétences avec de moins en moins de moyens, et que ça n'est pas possible. Les régions, et je suis conseiller régional, donc je sais de quoi je parle, ont dû beaucoup investir sur le ferroviaire. La plupart ont récemment repris la gestion des TET qui, normalement, et de la compétence de l'État pour essayer d'apporter un service
TET,
de plus grande qualité.
Les TET, ce sont les trains.
Les trains d'équipe du territoire, qui sont des trains, normalement, qui relèvent de l'autorité de l'État. Et beaucoup de régions ont suivi l'exemple de la Normandie dont je suis élu, en disant, écoutez, on a un service tellement pourri, avec des véhicules tellement vétustes, avec des retards, avec pas de chauffage l'hiver, etc., etc., que nous, on reprend la compétence. Et donc, c'est pour vous dire que les régions ont déjà fait un effort considérable en reprenant la gestion de trains qui revenait déjà à l'État. Donc je crois qu'on ne peut pas aller plus loin sauf à donner les moyens nécessaires aux régions et qu'il faut trouver une solution et que l'État assume ses responsabilités. Et je dis bien l'État parce que on ne peut pas à la fois demander à la SNCF d'être une entreprise normale, c'est-à-dire d'arriver à équilibrer ses comptes, et en même temps lui confier des missions de service public. Je crois qu'il faut bien différencier les deux, qu'il y a des missions de service public auxquelles on est très attaché, parce que le ferroviaire ne doit pas être vu, comme le fait M. Spinetta, uniquement sous un angle économique et social. C'est un instrument d'aménagement du territoire, et cette mission d'aménagement du territoire elle est extrêmement importante, et c'est à l'État de l'assumer.
Jean Lenoir, vous qui représentez les usagers, en tout cas la FNOT, la Fédération des usagers, qu'est-ce que vous dites à Marc? Et Marc, il n'est pas tout seul, hein, je peux vous dire qu'ils sont très nombreux ce soir au Standard Inter. Faut s'unir pour faire entendre la voix de ceux qui ne veulent pas perdre leur train?
Oui, je crois d'abord que l'exemple de Marc est excellent, parce qu'il illustre très bien la véritable dimension du problème. Vu du rapport Spinetta, on a affaire à cette dite étoile de Veynes. Veynes, c'est 3000 habitants, mais avec trois lignes considérées aujourd'hui comme pas intéressantes par le rapport Spinetta. C'est une ligne qui va vers Briançon, une ligne qui va vers Grenoble et une ligne qui va vers Marseille, et même une quatrième qui va sur Valence. Donc ces trois ou quatre lignes telles qu'on les considère par le rapport Spinetta, c'est pas intéressant. En fait, avec ces quatre lignes autour de l'étoile de Veynes, vous pouvez faire du Briançon-Grenoble, du Briançon-Valence et même vers Paris, et du Briançon-Marseille. Il est évident que c'est absolument indispensable d'avoir des liaisons ferroviaires de qualité, qui sont les liaisons régionales, mais on le voit très bien dans cet exemple aussi, ce sont des liaisons qui ont une importance nationale. Donc dire que ce soit ces lignes sont des lignes à faible trafic, c'est pas des lignes à faible importance. Vu de Paris, si on raisonne en mathématiques, c'est du faible trafic. Vu des régions, ce sont au contraire des lignes extrêmement importantes.
On va partir maintenant à Châteauroux, retrouver le président de l'Association des maires ruraux de France, Vanick Berberian. Ce que vous avez entendu tout à l'heure, quand vous avez entendu Marc, vous devez l'entendre, vous, dans de nombreuses régions, dans de nombreuses communes.
Ben, je l'entends et puis je vais vous dire, je le vis aussi. Son propos est tout à fait réel et globalement il est navrant. Mais je crois que c'est intéressant de replacer cette problématique de la SNCF dans un contexte plus large, qui est celui de l'absence de volonté politique d'équilibre de territoire depuis 30 ans. Et alors aujourd'hui, quand on se bat pour le train, quand on se bat pour les urgences de l'hôpital de Clamecy, quand on se bat pour maintenir des classes dans les territoires ruraux, on se bat pour quoi ? On se bat pour compenser, pour réagir face à une absence non seulement d'aménagement, mais aussi d'équilibre du territoire. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on a assisté ces 30 dernières années, et c'est pour ça que le cas de la SNCF est tout à fait intéressant, emblématique, à un choix stratégique qui a privilégié les grandes métropoles à travers le développement du TGV, et on l'a vu, qui a délaissé totalement les lignes secondaires. On a assisté à un délabrement progressif de tout ce réseau secondaire. Aujourd'hui, on en paye le prix.
Merci beaucoup, Vanik Berberian. Je voudrais qu'on aille au standard retrouver André qui nous appelle du Morbihan et qui, je pense, va sur dire à peu près la même chose que vous, monsieur Berberian. Bonsoir, André.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Ce que je souhaitais, c'est effectivement prendre l'exemple de la Bretagne, que je connais quand même assez bien, au niveau des transports, pour expliquer un peu les risques qu'il y a. Parce que on parle des petites lignes, mais il faut parler de tous les arrêts qui vont être supprimés. En Bretagne, on a dépensé pour gagner une demi-heure entre Rennes et Paris, parce que pour le reste, on gagne rien entre Rennes et Quimper, et entre Rennes et Brest. On a dépensé plusieurs milliards. On a défriché. Moi, j'ai pris souvent la route et j'ai vu les travaux qui ont été faits. On a massacré le bocage, on a massacré la région. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a 50 ans, en 1968, je prenais le goéland, je mettais 5h20. Il y a ça peu de temps, on mettait 4h20 pour aller, c'est le cas de Brest. Là, on va gagner une demi-heure. Je regardais les horaires, on va mettre 3h, 3/4, en moyenne. Bon, pendant ce temps-là, pour aller de Quimper à Brest, une fois sur deux, c'est le train, une fois sur deux, c'est le quart. On met 1h20 pour faire 70 km. Et on va se retrouver, je fais une allusion à un cas qui a fait l'objet d'un film, c'est le Mali. Le Mali, on sait, est très pauvre, au bord de la faillite. La Banque mondiale et le FMI ont dit, vous vendez vos trains, vous vendez vos chemins de fer. Le privé est arrivé, rentabilité, profit. Au lieu d'avoir une gare tous les 40 km, ben maintenant il y a une gare tous les 200 ou 400 km. Le problème, il est là, c'est que beaucoup de gares, on le sait, vont être supprimées. Hein, et il y a un pacte ferroviaire breton depuis 2008, mais on n'améliore rien. Je prendrai juste deux cas pour terminer
rapidement,
là-dessus.
André, oui.
C'est, on a une ligne dont on parle beaucoup, qui traverse la Bretagne. C'est la seule du nord au sud. C'est la ligne Auray-Saint-Brieuc. Qu'est-ce qu'on fait ? On en parle depuis près de 10 ans. Et on fait rien du tout. Moi, j'ai vu des plans où on disait on va gagner des kilomètres, là, on va s'occuper de la voirie, des voies ferrées, que ça soit celle qui passe leur nom.
Bon, André, je vais être obligé d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse vous répondre.
Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est qu'à partir du moment où on va privatiser, c'est évident, c'est ce qui est en train de se passer.
Alors, on va voir si vraiment c'est ça l'objectif. Merci beaucoup, André. Moi, je voudrais passer la parole au sénateur Moret. Vous allez répondre à André. Alors, privatisation, pour l'instant, non. C'est pas dans les projets actuels.
Personne n'a jamais parlé de privatisation de la SNCF. Il y a une confusion qui est faite régulièrement entre libéralisation et privatisation. Ce sont deux choses totalement différentes. La libéralisation, c'est simplement la mise en concurrence, c'est-à-dire offrir la possibilité que demain, sur les voies ferrées, il n'y ait pas que des trains de la SNCF.
Et pourquoi ? Parce que l'Union européenne a décidé qu'il devait y avoir concurrence.
Alors, l'Union européenne a décidé qu'il devait y avoir concurrence, c'est ce qu'on appelle dans le jargon européen le quatrième paquet ferroviaire, qui fait que, selon le droit européen, à partir de 2019, et pas de 2023, comme le dit M. Spinetta, mais à partir de 2019, les trains qu'on appelle régulés, c'est-à-dire les TER, trains d'équilibre régionaux, et les TET, trains d'équilibre du territoire, doivent être mis en concurrence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autorités organisatrices de transport, pour faire simple, les régions, au lieu de passer un contrat avec la SNCF, mettront les lignes en concurrence. Et donc, comme on fait pour n'importe quelle fourniture, il y aura des entreprises qui répondront, la SNCF et puis d'autres concurrents.
Pour vous, c'est une bonne chose ?
Oui, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer d'être rapide. Et donc, la région choisira telle ou telle entreprise pour telle ou telle ligne. Ça, c'est sur la partie train régulé. Et sur la partie qu'on appelle train commerciaux, c'est-à-dire les TGV, là, l'ouverture à la concurrence doit intervenir au début de l'année 2021. Et là, il y a des modalités auxquelles on est attaché pour éviter ce que souhaite Bruxelles, qui s'appelle l'open access. L'open access, c'est la libre concurrence sur ces lignes-là. Et dans la proposition de loi qu'on a fait au Sénat, on a voulu mettre des garde-fous, parce que le danger de l'open access, en revanche, parce que là, il y a un danger, c'est qu'il y ait une concurrence qui conduise les entreprises à se battre sur les lignes les plus rentables. En général, on cite Paris-Lyon, et à délaisser les lignes non rentables. Et donc ça, nous, on n'en veut pas. Parce qu'on croit, pour répondre à votre question, on est convaincu que la libéralisation, elle doit améliorer la qualité du service rendu à l'usager. Et donc, si on avait ce système d'open access, ça risquerait d'avoir l'effet inverse, parce qu'il y aurait une concurrence profitable sur les lignes rentables, et sur d'autres lignes comme celles qui ont pu être évoquées tout à l'heure, eh bien, il y aurait soit plus de dessertes, soit des dessertes moins fréquentes, soit des dessertes de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que nous, on a voulu, dans notre proposition de loi, avoir un système qu'on a appelé de franchise, mais qui en fait est un système par lot. Vous prenez une ligne rentable, très bien, mais en même temps, vous prenez des lignes non rentables pour continuer à assurer un bon maillage du territoire.
Deux questions encore, Monsieur Moret. Par rapport à ce que disait notre ami auditeur, il lui parlait de privatisation, mais c'est peut-être le fait que Monsieur Spinetta propose un changement de statut de la SNCF dans son rapport. C'est que ça devienne une société, c'est ça qui inquiète.
Monsieur Spinetta propose qu'il y ait un changement juridique de statut de la SNCF, mais que ça demeure une entreprise publique. Il propose que l'on passe d'un statut d'établissement public industriel et commercial à un statut de société anonyme à capital public. Ce qui s'est passé avec la Poste, hein, il y a maintenant quelques années, je ne sais plus, 7 ou 8 ans je crois, la Poste est devenue une société anonyme dont les actionnaires sont majoritairement l'État, à 51%, et la Caisse des dépôts, donc c'est une entreprise 100% publique. Simplement, être une entreprise, une société anonyme et pas un EPIC, ça permet d'abord d'être en conformité avec le droit européen, et puis aussi ça permet d'avoir un peu plus de rigueur dans la gestion des comptes, parce que c'est le droit commercial qui s'impose, et notamment dans une ESA, vous pouvez pas, comme à la SNCF, avoir une dette qui est aujourd'hui de 50 milliards et qui augmente de 3 milliards par an et qui, selon les prévisions les plus optimistes, doit continuer à augmenter comme ça encore de 3 milliards par an pendant 15 ans.
Une autre question, et j'ai cru percevoir dans ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai cru comprendre déjà la réponse. Est-ce qu'il y a urgence vraiment à s'occuper de tout ça? Parce que là, on a eu le rapport Spinetta, oui. Trois jours après les consultations ont commencé, lundi on nous donne le calendrier, on a l'impression que ça va être fait à la vitesse grand V. Il y a vraiment urgence aujourd'hui?
Oui, je crois qu'il y a urgence à réformer le pays. Il y a urgence à réformer la SNCF. On pourrait en parler très longuement du précédent gouvernement qui n'a pas traité la question sociale, qui n'a pas traité la question de la dette. Il y a urgence à ouvrir à la concurrence parce que c'est ce qui peut sauver le système ferroviaire français et la SNCF. Parce que contrairement à ce que disent certains, la concurrence conforte le ferroviaire et y compris l'entreprise historique. On l'a vu très nettement en Allemagne. Oui, il y a urgence à agir. Pour autant, il ne faut pas agir de manière brutale. Nous sommes contre les ordonnances. Nous sommes contre le fait qu'on ne respecte pas le Parlement, d'autant plus qu'au Parlement, on a préparé une proposition de loi, qu'on est prêt à l'inscrire, qu'on est prêt à en débattre et qu'on est prêt à l'adopter, que cette proposition de loi est passée devant le Conseil d'État cette semaine. Donc je ne vois pas pourquoi on mépriserait le Parlement au point de dire « Vous avez un texte qui est prêt, qui est validé par le Conseil d'État, on s'en moque, nous on fait des ordonnances. »
Jean Lenoir de la FNOT, sur la... L'idée même de concurrence qui va arriver, bonne chose ou pas bonne chose pour vous qui représentez les usagers?
C'est une très bonne chose et on a 20 ans de retard par rapport à ce qui se fait en Europe. Pourquoi? C'est une très bonne chose parce que l'expérience montre que le trafic augmente. Je vais vous citer un exemple qui est en Allemagne. Ça fait 20 ans que les lignes régionales ont été mises en forme de concurrence et comme le disait M. Lintéroré, non pas sous forme d'open access, de libre accès, mais sous forme de délégation de services publics. C'est-à-dire que c'est l'autorité organisatrice, la région en l'occurrence, qui définit les services dont on a besoin et elle soumet cela à un appel d'offres et c'est le mieux-disant, le moins-disant qui répond. Qu'est-ce qu'a donné cette expérience en Allemagne? Eh bien, en gros, les entreprises privés ont gagné 30% du marché régional. L'opérateur historique, sous la pression de la concurrence, a amélioré fortement sa qualité et ses coûts. Et ce qui fait que quand on fait le bilan global, on s'aperçoit qu'il n'y a que des gagnants. Je m'explique. Le trafic a augmenté. L'opérateur historique s'est modernisé, a amélioré sa performance. Et à partir du moment où le trafic a augmenté, les recettes ont augmenté, les subventions qu'ont eu à verser les régions allemandes ont baissé. Et ces gains ont été réinvestis dans l'amélioration du réseau, ce qui a conduit à une amélioration continuelle du trafic, etc.
Alors, vous êtes quand même inquiet pour un certain nombre de lignes.
Oui, mais ça, c'est la position récente du gouvernement qui dit il faut moderniser les infrastructures, mais dorénavant, ce sera aux régions de le faire, et il faudra que les régions le fassent sans transfert de moyens. Alors ça, en tant qu'usagers, mais aussi contribuables, nous trouvons ça à tout le moins incompréhensible, si ce n'est plus, parce que l'État ne veut plus financer les réseaux régionaux, mais il oublie un peu rapidement de dire que les régions, les collectivités locales et, à la demande de l'État, ont financé des investissements nationaux. Par exemple, la dernière ligne à grande vitesse, Paris-Bordeaux, dont je crois que c'est à tout le moins élémentaire du donnant-donnant au titre de la solidarité nationale.
On repart au Standard de France Inter, retrouver Fabienne, et c'est Vannick Berberian qui lui répondra. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir. Bah écoutez, moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre à travers tout ce que j'entends là, hein, enfin, ou ce que j'ai entendu, c'est que le public devrait être rentable. Moi, je j'ai pas de patrimoine personnel. Par contre, mon patrimoine, c'est celui que mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, enfin, tous ceux qu'on a payés au niveau des impôts pour construire des gares, des lignes, des postes, des écoles, tout ce qui devait servir à tout le monde et qui sert à tout le monde. Et maintenant, tout d'un coup, on nous dit, ça doit être rentable. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Je suis, merci de me donner la parole, parce que là, enfin, je peux dire ce que je pense. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de rentabilité de service public? Il faut arrêter. On me parle d'Europe, on me parle d'ouverture à la concurrence. Je n'y comprends rien. Moi, ce que je vous dis, c'est simplement que, par exemple, cette poste, cette caisse d'épargne ou cette caserne même, tiens, qui est en plein centre-ville et qui va être vendue, à qui? Tiens, pourquoi? Elle est en plein centre-ville, elle est drôlement intéressante. Pareil pour les gares. Eh ben, les gares, quand je vais dans le sud, dans la famille, j'ai même plus de train de nuit, j'en ai un tous les 36 du mois, et encore. Alors, ok, mais il est plein à chaque fois.
Merci beaucoup, Fabienne, de nous avoir appelé. Vannick Berberian, qui est en direct de Châteauroux, président de l'Association des maires ruraux de France. Que dites-vous,
oui,
à Fabienne?
Ah ouais, écoutez, je comprends son inquiétude, et il suffit d'observer comment les choses se sont déroulées ces dernières années dans bon nombre de domaines. Moi, je veux bien que la mise en concurrence soit la panacée universelle et que ça va restaurer la qualité du service. J'aimerais bien en être convaincu. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas tout à fait comme ça, hein. La libéralisation, effectivement, elle induit la concurrence, et la concurrence, elle induit quoi? Elle induit quand même un regard tout à fait précis sur la rentabilité financière des opérations. Le sénateur Moret a évoqué La Poste tout à l'heure. Effectivement, La Poste a changé de statut, est aujourd'hui une société anonyme, mais elle a des obligations de service public. Donc, si cette mise en concurrence n'a pas avec elle des obligations de service et qu'on se limite donc à la rentabilité financière, évidemment les territoires ruraux seront les premiers menacés. On parle de rentabilité financière, peut-être qu'on pourrait parler de rentabilité économique. Et si on parle de rentabilité économique, ça veut dire qu'on va intégrer dedans la rentabilité sociale. Je suis d'accord avec votre auditrice, le service public est là pour rendre un service. Il n'est pas là pour être rentable. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'interroger sur la manière dont ce service est rendu. Et c'est clair que il faut s'interroger sur la manière dont ce service est rendu, s'il n'y a pas à le modifier, à le moderniser, y compris dans son statut. Mais à la question de l'urgence de rénover donc la SNCF, moi j'ai envie de dire l'urgence, elle est dans le fait de réparer les trains, elle est dans le fait de réparer les rails, de supprimer les passages à niveau. Vous savez qu'ici là à Châteauroux, les trains sont supprimés parce qu'il fait -1, -2 et que les trains ne sont pas réparés. On est où là, sincèrement? 2 heures de Paris seulement et pas de train. De qui se moque-t-on? Moi, je comprends la colère des gens.
C'est un petit peu pour ça que vous êtes en duplex de Châteauroux ce soir. Jean Lenoir, vous souhaitiez réagir tout à l'heure de la FNOUT.
Oui, non, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion en ce qui concerne le service. Si on privatise, ce qui n'est pas le cas, il faut que le service public soit rentable. personnellement, je n'ai jamais employé ce mot-là. J'ai simplement dit, en faisant la comparaison avec l'Allemagne, mais qui est une comparaison possible parmi d'autres, ça permet de réduire les subventions accordées. Voilà. De toute façon, dans tous les pays du monde, le service public ferroviaire est subventionné. Il n'y a pas de honte en France à ce qu'on ait aussi besoin de subventions. Ce que nous disons simplement, c'est qu'on a besoin d'assurer le service de meilleure qualité au moindre coût. Et l'ouverture à la concurrence est un des facteurs qui permet d'arriver à ce travail d'amélioration.
Monsieur Moret, une petite question sur la suite des événements. Vous avez donc déposé une proposition de loi. Le gouvernement, lui, semble décidé à agir très vite. Qu'est-ce qui va se passer au bout du bout? Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir sauver, entre guillemets, toutes les petites lignes, celles sur lesquelles le trafic n'est pas très important?
Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus être obtus. C'est vrai que si vous avez une ligne où il y a 5 voyageurs par jour, je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument la supprimer.
Mais où est-ce qu'on met le...
On a des lignes, il faut...
Où est-ce qu'on met le plafond, alors?
Il faut quand même être lucide et honnête. Il y a des lignes pour lesquelles le coût par voyageur est supérieur au coût qu'on aurait si on transportait ces voyageurs en taxi ou en transport à la demande. C'est extrêmement marginal et extrêmement limité, ces cas. Mais ils existent. Et donc, que dans ces cas-là, on regarde d'autres solutions, pourquoi pas? Mais sur des lignes comme celles dont parlait tout à l'heure votre auditeur, c'est évident qu'il faut les maintenir. Ce sont des obligations de service public que doit assumer l'État. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut bien différencier le rôle de la SNCF, qui n'est pas d'assurer des missions de service public. Elle doit faire un travail dans des conditions d'une entreprise. Et justement, c'est d'autant plus nécessaire dans le cadre d'une mise en concurrence. Mais pour autant, il faut toujours qu'il y ait des objectifs d'aménagement du territoire, des objectifs de service public. Et c'est pas parce qu'il y a un service public qui doit être accompli dans des conditions de gaspillage évident. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait une maîtrise des dépenses. Mais on doit garantir effectivement un service public et un aménagement du territoire. Et ça, c'est le rôle de l'État.
On repart au standard de France Inter. Dans une seconde.
France Inter, le 18-20, le téléphone sonne.
Cette fois, c'est Françoise qui est en ligne. Bonsoir, Françoise.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, je suis comme tous les voyageurs qui utilisent le service public de la SNCF, très égoïste. Mais mon égoïsme...
Qu'est-ce que vous entendez par là?
La qualité du service. Voilà. Si dans les transversales, en ce qui me concerne, je fais une ligne qui s'appelle Brive Évian. Il faut que je passe près de 12 heures avec les changements répétés pour arriver à ma destination. Or, on me facture au kilomètre et je me demande s'il ne serait pas intéressant que la SNCF calcule en fonction du TGV et des lignes à grande vitesse les gains de productivité en termes d'horaire. C'est-à-dire que si je pars de Brive pour aller à Paris, j'en ai pour 4 heures, et de Paris pour aller à Annemasse, j'en ai pour 3 heures. C'est-à-dire 7
heures. C'est-à-dire que si vous passez par Paris, ça va plus vite, quoi. C'est ça, en gros.
Voilà, grosso modo. Donc, au lieu de nous facturer au kilomètre, ne pourrions-nous pas envisager de nous facturer à l'heure de transport?
Vous êtes maligne, hein. Vous êtes maligne, Françoise, hein.
Mais je ne suis pas maligne, je suis quelqu'un d'ordinaire. Je suis quelqu'un de très ordinaire.
Merci beaucoup, Françoise. Monsieur Lenoir, peut-être, qu'est-ce que vous dites à Françoise?
Alors, ce que je partage comme remarque, c'est qu'on est désolé aujourd'hui de constater qu'il faut passer par Paris dès qu'on a affaire à une liaison transversale. Et ça, c'est un constat très malheureux que nous faisons, à savoir que depuis quelques années, les liaisons transversales, quelles qu'elles soient, sont toutes lentement mais sûrement abandonnées, sauf quelques exceptions. Alors, finalement, notre auditrice constate que je surpaye, en quelque sorte, en étant obligé de faire le détour par Paris. Oui, ça c'est clair, c'est absolument anormal.
Merci beaucoup, monsieur Lenoir. On repart au Standard Inter, où nous attend Gilles. Bonsoir, Gilles.
Oui, bonsoir.
Je crois que vous êtes CGT cheminot, c'est ça?
Oui, je suis délégué CGT en gare de Lyon-Perrache.
Et je me permets juste de faire une toute petite de donner une toute petite précision à nos auditeurs. On a sollicité ce soir les syndicats de la SNCF et notamment la CGT, mais visiblement, il y avait trop de boulot en fin de semaine qui a été très compliqué, en attendant la prochaine semaine qui s'annonce, et donc c'est pour ça qu'on a personne ce soir. On vous écoute, Gilles.
Écoutez, la privatisation, il faut savoir ce que ça a entraîné dans les pays d'Europe. Il faut se rappeler qu'il y a 15 jours, parce que les personnes qui sont présentes sur le plateau défendent ou pas l'ouverture à la concurrence, mais ça a entraîné la mort de 3 Italiens, encore une fois, une catastrophe ferroviaire au sud de Milan, qui a entraîné des morts. Et c'est pas la première fois en Italie. Ça, les raisons, c'est le manque d'entretien de l'infrastructure qui s'est vu sur tout le réseau italien. Et donc, demain, ce sera ça. Ce sera le manque d'infrastructure. Je vous rappelle que dans le rapport Spinetta, il est noté que l'abandon des lignes se fera progressivement. On n'abandonnera pas les lignes. On ne les entretiendra plus. Elles mourront de leur belle mort. Voilà.
Voilà
ce que c'est aujourd'hui. Voilà ce que propose aujourd'hui ce cher patron de gauche, Monsieur Spinetta, qui est un ultra-libéral, qui veut la mort du service public ferroviaire. Le 22 mars, on sera dans la rue avec tous les fonctionnaires pour crier notre honte de voir ce gouvernement liquider un service public aussi beau que le monde ferroviaire, voilà, que la SNCF.
Merci beaucoup, Gilles, voilà, de nous avoir appelé. Je précise que la CFDT, de son côté, se demande même si elle ne va pas appeler à la grève dès le 12 mars. Et j'ajoute aussi, à propos du rapport Spinetta, qu'il propose de classer les lignes en deux catégories, celles qui pourront être rénovées et celles qui seront qualifiées d'obsolètes. Et effectivement, obsolètes, on sait ce que ça veut dire. Ça ne va pas fort en général dans ces cas-là. Hervé Moret, sénateur.
Oui, je trouve UDI. Que l'exemple choisi par ce responsable CGT est particulièrement mauvais, parce que malheureusement, la France, qui a un service public ferroviaire et qui a une entreprise publique à laquelle on est tous très attachés, a, et c'est pas uniquement sa faute, c'est principalement la faute de l'État, complètement laissé à l'abandon le réseau ferroviaire. Alors quand on dit que ce serait que le réseau serait mal entretenu si on avait une mise en concurrence, je pense que ça pourrait pas être pire qu'aujourd'hui. Je vous rappelle que l'on a un réseau ferroviaire qui est totalement pourri, et je pèse mes mots, qui a en moyenne plus de 30 ans d'âge, quand en Allemagne il est moitié moins âgé, qu'on a dans certains cas des caténaires qui ont près d'un siècle, et je vous avais bien entendu, près d'un siècle. J'ai eu accès à des documents où on voit des caténaires totalement bouffés par la rouille. Donc quand on parle de mauvais état du réseau ferroviaire, malheureusement la France est un exemple en la matière, ce qui montre bien que c'est pas parce qu'on est on a une entreprise publique que l'on entretient bien le réseau. Et je dis régulièrement que c'est presque un miracle qu'on n'ait pas eu d'autre accident que celui de Bretigny qui a causé un certain nombre d'accidents mortels. Et comme vous le savez, sur ce point, le gouvernement a décidé de donner priorité à la régénération du réseau. Et sur ce point, je lui donne tout à fait raison, parce que pendant des années, on a privilégié les lignes nouvelles et on n'a pas assuré l'entretien du réseau. Et aujourd'hui, on a un réseau qui est de très mauvaise qualité. Et c'est effectivement une priorité que de régénérer ce réseau.
Valérie est en ligne. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir. Voilà, écoutez, moi je parle d'une petite ville qui s'appelle Nonancourt, qui est située à 1h10 de Paris. Nonancourt dans l'heure, exactement, dans le 27.
Je suis élue de l'heure, donc je connais.
Ah ben voilà. Mais écoutez, donc vous savez qu'à Nonancourt, peut-être, en tout cas auparavant, on avait une ligne qui fonctionnait quand même plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on avait pas mal d'arrêts. Et les gens donc se stationnaient sur le parking gratuit, habitaient donc à Nonancourt parce qu'ici il y avait un accès direct vers Paris. Et petit à petit, ce qui s'est passé, ben le nombre d'arrêts en fait, au niveau du timing, eh bien c'est réduit. Donc maintenant on est à 4 malheureux trains par jour. C'est-à-dire que si vous arrivez, donc vous prenez votre train à 7h30 pour aller donc à Paris, ben c'est super, mais après il faut attendre 20 heures pour revenir.
Merci.
Qui va aller travailler dans ces cas-là?
Merci.
C'est pas possible.
Beaucoup.
Donc là, la ligne va mourir.
Merci Valérie. Alors on demande à votre collègue de l'heure de répondre, Hervé Moret.
C'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe, d'avoir une espèce de cercle vicieux où, comme il y a moins d'usagers, eh bien on ferme des lignes, et puis plus on ferme des lignes, moins on a d'usagers. Et parfois, on se demande quelle est la cause et quelle est la conséquence. Et c'est là où j'en reviens à la nécessité d'avoir une politique volontariste en termes d'aménagement du territoire et une politique volontariste en matière de services publics. Et ça, c'est à l'État d'assumer ce rôle. C'est pas à la SNCF et c'est pas aux régions. L'aménagement du territoire, c'est une compétence de l'État. Et malheureusement, depuis un certain nombre d'années, l'aménagement du territoire est devenu le parent pauvre des politiques publiques. On le voit avec le ferroviaire, on le voit avec, ça a été dit tout à l'heure, d'autres sujets comme l'accès aux soins, comme le numérique. Et il est temps que l'on prenne en compte cette dimension aménagement du territoire. C'est pour ça que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, en phase avec M. Spinetta ou d'autres d'ailleurs, qui considèrent que l'on doit regarder l'intérêt d'une ligne uniquement à l'aune de sa rentabilité. Et je faisais partie de la commission Duron, et les premières réunions, j'ai dû demander à ce qu'on mentionne l'aménagement du territoire comme un critère d'appréciation de l'utilité d'une infrastructure. Alors, parce que ça n'était même pas venu à l'idée des membres de la commission avant que je fasse cette remarque.
Petite précision, vous êtes président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, M. Moret. Or, si des lignes disparaissent, ça veut dire qu'on va utiliser le car, qu'on va utiliser la voiture. Est-ce que c'est vraiment compatible avec les objectifs de la COP21, tout ça?
Bien sûr que non, et c'est d'ailleurs un des reproches que l'on fait de manière tout à fait légitime à ce rapport de M. Spinetta, c'est qu'il ne prend pas du tout cette dimension développement durable, cette nécessité de réduire les émissions de CO2 conformément, vous l'avez rappelé, à l'accord de Paris, et que chaque fois qu'on remplace un train par un car, c'est évidemment extrêmement mauvais en termes de pollution.
Je voudrais qu'on fasse un petit détour par l'Indre, par Châteauroux, où nous attend Vannick Berberian, qui suit cette émission à distance. Monsieur Berberian, peut-être que vous souhaitiez réagir à tout ce qu'on vient d'entendre.
Oui, sur le constat de la décomposition progressive du réseau, je pense que tout le monde est unanime pour le dire. Et à ça s'est ajouté donc les conséquences de ce qui a été appelé le cadencement. Il y a quelques années, la SNCF nous a dit « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va cadencer les trains et ça sera bien mieux ». Le résultat, c'est que ce que votre auditrice a présenté dans l'heure, vous le retrouvez dans plein d'endroits. Moins de trains, des suppressions d'arrêts dans les gares, des horaires inadaptés. Tout ça, ça plombe quand même hein, le quotidien des gens. Je pense aussi que il faut s'intéresser à la dimension de proximité, parce que quand on pense du réseau ferré, on pense les liaisons de ville à ville, hein, les grandes liaisons, mais il y a aussi le déplacement du quotidien. Vous avez des élèves, des apprentis, des étudiants qui doivent quotidiennement prendre le train pour aller suivre leur cours ou aller travailler. Quand vous n'avez pas de liaison facile, eh ben vous êtes tenté effectivement de prendre la voiture quand vous en avez une. Et quand vous voyez le renchérissement du prix du carburant aujourd'hui, on comprend bien que les ruraux en ont un petit peu marre de se trouver comme ça ici, ainsi en relégation. On a parlé de zones blanches hein, ben, pendant un temps sur les questions de la téléphonie et du numérique. On est en train de créer des zones blanches pour les transports. Et la question de la compensation financière ou de l'investissement lourd de fonds publics en matière de transport, c'est curieux. Ça ne pose pas de problème pour la région parisienne et ça en pose pour les territoires ruraux. Nous, ce qu'on demande, c'est simple, hein, c'est qu'on arrête ce mépris envers les habitants des territoires ruraux et qu'on considère les gens de la même manière, que l'on habite à la ville ou que l'on habite à la campagne. Et pouvoir accéder à un train correct, en principe, c'est pas un luxe.
Merci beaucoup, Monsieur Berberian. Et votre opinion rejoint celle d'un certain nombre d'auditeurs de France Inter qui nous ont envoyé des messages sur franceinter.fr. Il y en a qui nous disent... C'est la dictature de Paris face aux campagnes. Il y en a aussi qui nous disent, au Royaume-Uni, la mise en concurrence appliquée au chemin de fer a été un désastre. Ça, c'est pour vous, Monsieur Lenoir. D'autres qui nous disent, je vis en Allemagne. Quelqu'un d'autre nous dit, je vis en Allemagne depuis quelques années, je fais de nombreux trajets en train et je peux vous assurer que j'envie la ponctualité de la SNCF. Vous voyez, la concurrence, c'est pas forcément aussi bien que ça.
Ah ben, j'ai dit que c'était une solution parmi d'autres. Alors, le train anglais est effectivement plus cher que le train français. En revanche, ça n'a jamais été dit, le réseau anglais est le plus sûr d'Europe. Tout simplement parce que l'État a consenti des moyens financiers importants pour le rendre sûr.
Un dernier mot, puisque cette émission touche à sa fin. Malheureusement, on ne peut plus prendre nos amis au standard, l'heure tourne. En guise de conclusion, Hervé Moret, qu'est-ce qui pour vous est la priorité des priorités aujourd'hui ?
La priorité des priorités, c'est de s'engager de manière courageuse et déterminée dans la réforme de la SNCF, parce que sans ça, cette vieille dame à laquelle nous sommes tous très attachés va mourir. Et c'est de faire en sorte que les territoires ne soient pas abandonnés, que l'État joue pleinement son rôle en matière d'aménagement du territoire.
Ça veut dire quoi ? Qu'il doit y avoir une grande consultation ou un débat au Parlement va suffire ou il faut quelque chose de plus vaste? Parce qu'on nous dit aussi sur franceinter.fr, pourquoi ne pas organiser une grande consultation sur cette question?
Je crois qu'il n'y a pas besoin de consultation. On est très fort en France pour faire des assises, des états généraux, des trucs et des machins. On a des lignes qui sont utiles. Il faut garder toutes les lignes qui sont utiles aux usagers. C'est aussi simple que cela.
Jean Lenoir, vous avez 10 secondes en guise de conclusion.
Alors, premier point, de toute façon, l'entreprise doit se moderniser, améliorer son rapport qualité-prix. Deuxièmement, l'État doit, de toute façon, contribuer au financement des réseaux ferroviaires dans tous les pays du monde. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus la composante écologique et environnementale dont tout le monde parle, mais dans laquelle personne n'agit aujourd'hui.
Voilà, ce sera votre conclusion. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à vous tous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menahem, Jimmy Bourquin, à la réalisation ce soir David Travailleur. À la programmation musicale de ce 18-20, Djoubaka, à la technique Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Loïc Frapsos, Raphaël Rousseau. Un grand merci également à nos confrères de France Bleu Berry pour la liaison qui nous a permis de dialoguer avec M. Berberian. Merci aussi aux standardistes de l'émission. Vous écoutez France Inter, il est 20h.